les premiers mardis de chaque mois.
Les Rendez-vous de la Peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
À 19h sur l'autre radio. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission Les Rendez-vous de la Peste. Comme d'habitude, dans le studio, nous avons un invité avec qui je vais partager une heure d'échange sur la structure qu'il gère aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un monsieur qui va se présenter à l'instant. Et on va parler du quotidien de cette structure, des projets qu'ils ont envie à développer et puis de plein d'autres choses, partager des actus voilà, qui intéressent notre auditoire. Merci, je ne vais pas dire le nom, le prénom, je vais te laisser te présenter. Merci d'abord de ta participation à cet échange avec moi ce soir.
Merci Janina. Donc, je suis Saïd Abou Ali, je suis directeur d'Alternatrice 53.
Merci Saïd, voilà, je me répète, mais de participer à cette soirée-là. Tu es directeur de la structure Alternatrice, mais pas que, tu as plusieurs casquettes.
Tout à fait, je suis administrateur de la PES et je suis coprésident de chantier école au niveau régional.
Avant de commencer à parler de la structure Alternatrice, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton parcours professionnel et comment tu es arrivé à être aujourd'hui le directeur de cette structure ?
Alors, mon parcours professionnel, il a, on va dire, deux axes. Le premier, c'est la Mayenne. J'ai fait en sorte de maintenir mon activité professionnelle sur le département de la Mayenne, sauf deux petites années où j'ai été un peu infidèle, où je suis allé travailler à Rennes. Et sinon, le deuxième axe, c'est la production. J'ai effectivement dirigé des sites de production industrielle, soit au niveau logistique industriel, soit au niveau maintenance industrielle, électronique, industrielle, etc. Et puis, je voulais donner aussi un sens à mon parcours, un sens social. Et donc, j'étais administrateur d'Alternatrice 53 depuis 2009 en tant que bénévole. J'en étais aussi président pendant quelques années. Et l'opportunité s'est présentée en juillet 2021 et j'en suis devenu le directeur général.
Alternatrice ? Elle a toujours été, enfin cette structure-là, elle a toujours eu ce nom-là ou c'est une évolution par rapport, je sais pas, aux activités, au choix du conseil d'administration.
Alors effectivement, le nom Alternatrice existe depuis 2008. Auparavant, la structure s'appelait Écoterie 53. Et elle est devenue Alternatrice assez rapidement. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a eu des structures supplémentaires qui se sont créées avec Alter Cité, Alter Service, Alter Avenir. Et il y a même eu un GIE. Et,
GIE.
Un GIE Alter Avenir également.
GIE, juste l'acronyme de
Groupement d'intérêt économique. Et donc, lorsque je suis arrivé en juillet 2021, après avoir fait un bref diagnostic, je me suis rendu compte que cette multiplicité de structures a amené beaucoup de confusion, aussi bien en termes de communication qu'en termes également de productivité administrative. Et j'ai décidé de mener une fusion-absorption après l'accord du conseil d'administration. Et donc, je l'ai mené en 2022. Et à partir de janvier 2023, il n'y a plus qu'une seule structure qui s'appelle Alternatrice 53 et qui regroupe l'ensemble des activités.
Préciser juste que les différents noms des structures, elles étaient aussi par rapport au support d'activité que la structure développe toujours. Hein. C'était ça un peu le, j'imagine.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Au départ, Alternatrice avait pour activité simplement la collecte et le tri de papier carton. Et puis ensuite, en 2015, est venue la création d'Altercité pour reprendre une activité qui, à l'époque, était lancée par l'ADASA, qui n'existe plus malheureusement. Et justement, c'était au moment où l'ADASA a périclité que nous avons repris l'activité de propreté ménage et d'espace vert. Et donc, c'est devenu Altercité. Et puis, en 2019, l'activité de collecte, transport, s'est détaché pour devenir Alter Service, pour devenir une entreprise d'insertion et non plus un chantier d'insertion. C'est pour des questions, on va dire, de positionnement sur le marché lavallois.
Aujourd'hui, Alternatri, est-ce qu'il y a une baseline, est-ce qu'il y a une phrase de présentation voilà, on voit en général les structures qui viennent, surtout les structures qui ont deux vocations, sociales et économiques.
Oui, alors est-ce qu'on a une baseline? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre structure Alternatri 53 œuvre dans le triptyque économique, social et environnemental. Nous nous inscrivons pleinement dans ce triangle important aujourd'hui aux yeux de tout le monde, hein, pour la survie de notre planète et puis pour également la vie ensemble. Et donc, on a l'habitude de dire que notre leitmotiv, c'est l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Voilà.
On entend, enfin, depuis tout à l'heure, structure d'insertion. J'aimerais bien que tu puisses expliquer aux auditeurs c'est quoi une structure d'insertion et puis faire un peu la distinction entre chantier d'insertion, entreprise d'insertion. Tu parlais un peu du choix d'être sur le marché, etc. Il faut un peu expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément ces acronymes et tout ce milieu-là.
Tout à fait. On appelle effectivement une structure d'insertion par l'activité économique, une SIAE. Alors, une structure d'insertion par l'activité économique, ça consiste notamment à accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Souvent, on parle d'insertion et les personnes entendent réinsertion. Il ne s'agit pas d'accompagner que des personnes sortant de prison, c'est pas ça, même s'il y en a, bien sûr, parmi le public accompagné, mais très 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 peu. La plupart des publics accompagnés dans une structure d'insertion par l'activité économique sont des personnes inscrites à Pôle emploi, qu'on appelle maintenant France Travail, de longue durée, des personnes qui ont des problématiques de logement, des problématiques de garde d'enfants, des problématiques d'addiction, d'endettement ou des problématiques administratives, tout simplement, et de mobilité. Et donc, une structure d'insertion par l'économique a pour vocation d'accompagner ces personnes, de lever les freins à l'emploi et de les rendre employables et de leur trouver ensuite un emploi pérenne. Ça, c'est l'objectif d'une structure d'insertion par l'activité économique. Après, dans ce monde-là, il y a quatre structures différentes qui existent. Vous avez ce qu'on appelle le chantier d'insertion. Et nous, on a un agrément chantier d'insertion qui est donc subventionné par l'État à hauteur de pratiquement 21 000 euros par équivalent temps plein, donc ça n'est pas négligeable. L'objectif, c'est d'accompagner des personnes très très éloignées de l'emploi. Vous avez ensuite l'entreprise d'insertion qui, elle, va accompagner des personnes un peu moins éloignées de l'emploi et qui va être moitié moins subventionnée par l'État. Ces personnes sont un peu plus autonomes que celles en chantier d'insertion, donc ont besoin de moins d'encadrement, moins d'accompagnement social. Et puis, vous allez avoir la troisième typologie, qui sont les associations intermédiaires, qui, elles, vont mettre à disposition du personnel, aussi bien à des particuliers qu'à des entreprises, et cette mise à disposition pour faire tout type de travail, du ménage, de l'espace vert, avec les moyens de l'entreprise ou les moyens du particulier. Et puis, vous allez avoir la quatrième catégorie, qui sont les ETTI, qui sont ni plus ni moins, en fait, des agences d'intérim d'insertion. Vous en avez deux. Sur le département, vous avez ID Intérim, qui est une filiale d'ADECO, et vous avez A2I, qui est une filiale d'Actual. Et eux, ils font de l'intérim pur et dur, mais avec des personnes éloignées de l'emploi et donc avec de l'accompagnement social en plus. Donc vous avez ces quatre catégories qui sont plus ou moins subventionnées par l'État, mais qui ont un objectif qui est celui d'avoir un certain niveau de taux de retour à l'emploi. Pour information, un chantier d'insertion ou une entreprise d'insertion a un objectif imposé par l'État, puisqu'il y a subvention, donc il y a obligatoirement aussi un objectif à atteindre. Et cet objectif, c'est d'avoir un nombre de 60% de retour à l'emploi. Nous, sur Laval, on a un retour de 80%.
Ah, oh, vous êtes au-dessus, là.
On est au-dessus, mais on est sur le département de la Mayenne. Et la Mayenne est un département extrêmement dynamique, avec notamment des entreprises qui jouent le jeu aussi. Et puis, nous avons aussi un process qui est bien, bien rodé, ce qui explique ce bon taux. Il faut savoir qu'au niveau national, le taux est aux alentours de 35%.
Ah,
donc, vous avez des régions, malheureusement, qui sont sinistrées, où il y a un taux de retour qui est moins fort.
Donc, le Mayenne tient les premières places, sur le retour à l'emploi. Donc, il y a ces personnes-là que vous intégrez sur le marché de travail avec le volet social, etc. Et puis, vous avez aussi l'équipe support qui accompagne ces personnes-là sur les différents points. Est-ce que tu souhaites présenter l'équipe que tu manages?
Bien sûr.
Qui accompagne ces personnes-là, et puis après on va développer un petit peu plus comment ça se passe, le parcours d'intégration, en tout cas même avant la partie prescription, j'imagine, etc.
Effectivement, aujourd'hui nous accompagnons une petite centaine de personnes en insertion, et pour cet accompagnement nous avons une équipe de permanence, qu'on appelle une équipe de permanents, qui ont donc un contrat en CDI chez nous, d'une vingtaine de personnes, un petit peu plus, on est 22 en ce moment, mais l'objectif c'est d'être 24. Cette équipe de permanents est constituée d'encadrants techniques. On a 4 encadrants techniques, chacun a une responsabilité sur un métier et une activité. Il y a un encadrant technique pour l'activité de collecte, et un encadrant technique pour l'activité de tri et de valorisation des déchets que l'on collecte, un autre pour l'entretien des espaces verts, et une encadrante technique pour la partie propreté et ménage. Et puis ensuite, on a des conseillères en insertion professionnelle qu'on aime mieux appeler des accompagnatrices socioprofessionnelles. Je dis accompagnatrices parce que ce sont trois femmes qui ont une relation directe avec les salariés en insertion pour les accompagner sur toutes leurs difficultés. Nous avons ensuite une équipe d'assistants d'encadrement technique qui sont des chefs d'équipe, qui sont sur le terrain et qui ont la responsabilité de montrer, de vérifier, de contrôler la qualité mais aussi la sécurité des salariés qui sont sur les chantiers. Et puis pour finir, un peu d'administratif, on a une équipe également bien sûr de comptables, de responsables administratifs et financiers et puis d'administratifs tout court. Donc voilà, avec cette équipe, nous manageons tous les jours la centaine de personnes en insertion.
Et au-dessus, puisqu'on est une association.
Exactement.
Parlons aussi de...
Effectivement, nous sommes une association employeuse et vous l'avez vu, on est 120 personnes, mais on reste quand même une association. Je le dis toujours et j'insiste dessus, on est une association à but non lucratif et on a un conseil d'administration de 8 personnes qui sont des Lavallois, aujourd'hui tous retraités. C'est un signal que je donne pour notamment motiver ceux qui voudraient venir nous rejoindre. Donc 8 personnes aujourd'hui, dont bien sûr comme toute association, un président, un trésorier, un secrétaire, et puis des administratrices et administrateurs. Donc voilà, effectivement, l'association telle qu'elle est constituée aujourd'hui.
Les personnes, donc vous, on avait bien entendu, il y a une centaine de personnes accompagnées. Quels sont les partenaires, les prescripteurs avec lesquels vous travaillez aujourd'hui sur cette chaîne, le valeur de l'insertion sur le marché de travail?
Alors, Janina, c'est vrai que c'est important de parler de prescripteurs parce qu'on n'est pas une entreprise. Hein, on ne postule pas chez nous comme on postule dans une entreprise, même quoique aujourd'hui, des personnes peuvent postuler en direct, mais via une plateforme que l'État a mise en place. Et puis après, il faut vérifier l'éligibilité des personnes qui postulent, à savoir si elles sont bien éligibles à travailler dans un chantier ou une entreprise d'insertion. Quoi qu'il en soit, il y a des prescripteurs dont c'est le rôle d'orienter les personnes vers un chantier d'insertion ou une entreprise d'insertion lorsqu'il y en a besoin dans son parcours professionnel, lorsque cette personne a besoin d'être réorientée lorsqu'elle a une transition professionnelle à faire. Et bien, les prescripteurs que sont Pôle emploi, le PLI, Mission locale, mais ça peut être d'autres prescripteurs qui n'ont pas encore l'habitude de le faire, mais vous avez la CAF, vous avez la MSA, vous avez un certain nombre d'organismes, les services sociaux du département, le CCAS, etc. etc. Donc, vous avez, je crois, entre une quinzaine et une vingtaine de prescripteurs possibles. Le plus gros d'entre eux, ça reste France Travail. Hein. C'est vraiment ceux qui, on va dire, orientent le plus grand nombre de personnes en insertion vers chez nous. Et donc, ils passent par une plateforme qui a été mise en place par l'État et qui propose des candidatures pour les postes que nous avons ouverts.
Le parcours d'intégration, d'accompagnement dans la structure, comment ça se passe en quelques mots pour comprendre, en fait, au moment où la personne arrive chez vous et au moment où elle sort. Enfin, elle trouve une solution, en tout cas, positive, la concernant soit en formation ou en emploi, mais tu pourras nous en parler un peu.
Tout à fait. Pour faire le lien avec le point précédent, une personne en insertion a ce qu'on appelle un pass IAE qui lui est délivré par France Travail. Ce pass IAE a une validité de 2 ans, 24 mois. Et donc, chez nous, en général, il ne reste pas 24 mois. En moyenne, il reste 12 à 13 mois. Ce pass IAE donc, leur donne la possibilité de travailler chez nous. Et lorsqu'on intègre une personne, on va lui faire... Alors ça, c'est notre process à nous. On va lui faire un contrat de 7 mois pour démarrer. Pourquoi 7 mois ? Parce que ça nous permet d'avoir vraiment une bonne durée d'observation et d'avoir aussi une période d'essai d'1 mois pour vraiment pouvoir évaluer la personne sur le poste sur lequel elle a postulé. Et donc on fait d'abord un contrat de 7 mois. Sur ce contrat de 7 mois, on va l'accompagner sur ces grandes difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure pour lever les freins. Et puis petit à petit, on va l'amener à réfléchir sur son projet professionnel. Donc ça, c'est le point important pendant cette période où l'on va décrire avec elle ce qu'elle a envie de faire, le travail qu'elle a envie de faire et le type d'entreprise dans laquelle elle a envie de travailler.
Est-ce que tout le monde a un projet professionnel ou des fois vous révélez des vocations ou des projets ou je ne sais pas, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, j'imagine, pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, d'avoir un projet professionnel, je pense.
Certains ont un projet professionnel en arrivant, d'autres n'en ont aucune idée. Et effectivement, nous les accompagnons par ce qu'on appelle des PMSMP, des périodes de mise en situation dans le milieu professionnel, où la personne va découvrir des métiers dans des entreprises, dans des assos, dans toute structure possible et imaginable, de manière à effectivement construire son projet professionnel. Et puis, les 4 activités que j'ai citées tout à l'heure sur lesquelles nous faisons travailler les personnes en insertion peuvent aussi amener les personnes à avoir une vocation. Il y en a qui découvrent les espaces verts et qui en tombent amoureux et puis qui ont envie de poursuivre.
Faire leur métier, quoi.
Exactement.
Oui,
oui. Donc, effectivement, ceux qui n'ont pas de projet professionnel en arrivant, au bout d'un moment, en ont un quand même. Et donc, nous l'accompagnons dans ce cadre-là. Et l'objectif, après ce premier contrat de 7 mois, c'est de renouveler un deuxième contrat, voire un troisième, jusqu'à ce que la personne soit prête à travailler dans le milieu ordinaire. Et là, on va l'accompagner à rechercher un emploi et on va la faire travailler nos partenaires entreprises pour pouvoir les faire postuler sur des postes.
Je propose qu'on fasse une pause musicale. C'est passionnant ce que tu racontes là avec ces personnes-là que vous accompagnez. Et puis, on va continuer l'échange pour la suite, la présentation des activités, territoires, etc.
Très bien.
À tout de suite.
Merci.
Baruch Ata Adonai.
Baruch
Abba Yerushalayim. Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.
Baruch Abba Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am.
Baruch
Rabba, Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am.
De l'économie sociale et solidaire en Mayenne. On est revenu dans le studio pour continuer notre échange, Saïd. Donc, on a parlé du volet social, l'accompagnement des personnes, voilà, l'équipe support, l'équipe de permanents qui accompagne ces personnes-là. On va parler des activités. Le territoire d'intervention, est-ce bien le département ou vous êtes juste la Val Aglo, puisqu'on n'a pas dit où Alternatrice se situe d'ailleurs?
Alors, notre terrain de jeu, c'est effectivement le département. Maintenant, on est quand même très présent plutôt sur la Val Aglo et jusqu'à 30 km autour de Laval.
Mais l'objectif, c'est de pouvoir intervenir sur tout le département s'il demande.
Si, ça, c'est ça, ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Après, faut aussi garder en tête l'aspect économique et l'aspect environnemental. On ne va pas déplacer des camions sur 50 km pour aller chercher 3 kg de papier. Donc, c'est tout l'équilibre à trouver.
Les activités, donc aujourd'hui, est-ce que tu voudrais nous rappeler les quatre activités là, que vous développez et puis parler aussi des partenariats, des clients à qui vous proposez vos services, le nombre des partenaires, des clients et comment ça se passe sur le terrain, une semaine type par exemple.
Ok. Alors, je vais commencer exprès par les activités qu'on met souvent en dernier. La propreté ménage, qui est une activité que nous faisons essentiellement sur Laval et autour de Laval, pour une grande majorité pour un partenaire important qui est Médouane Habitat, qui est notre plus grand partenaire sur ce sujet. Nous faisons donc le ménage des halls d'immeubles, des cages d'escalier, de la propreté urbaine également, avec ce partenaire. Mais on travaille aussi, bien sûr, en propreté avec... nous faisons par exemple la Maison des Artistes pour le Théâtre de Laval. Nous faisons certaines associations, des locaux de certaines associations et des bureaux de certains clients qui acceptent que l'on intervienne pendant les heures de journée.
Question ou précision, est-ce que vous intervenez aussi auprès des individuels? Et puis après, je ferme la parenthèse avec cette question-là.
Non, la propreté ménage et l'entretien des espaces verts, on n'intervient pas auprès des particuliers parce que pour intervenir auprès des particuliers, il faut une disposition particulière en termes de TVA. Nous, on est exonérés de TVA et donc on n'agit qu'auprès des professionnels et auprès des structures et des organismes publics.
Ok.
La deuxième activité, donc, alors, peut-être oui, tu disais une journée type. Oui. Une journée type, c'est simple, hein, on a des équipes de propreté qui partent dans des petits véhicules, enfin un petit véhicule de 9 places quand même, et puis quelques véhicules électriques aussi pour faire certains chantiers. Et donc, ils vont passer d'immeuble en immeuble, de quartier en quartier, et on fait tous les quartiers pratiquement de la ville de Laval. Et puis, on va essayer d'utiliser le moins d'eau possible, utiliser le moins de produits. D'ailleurs, on n'utilise pas de produits chimiques, mais quelques produits naturels, mais le moins possible, pour faire en sorte que notre action au niveau environnemental elle soit la mieux possible. Donc, notre objectif dans cette activité, c'est de tenir l'environnement de vie des gens le plus propre et le plus sain possible. Donc, quand on parle d'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement au titre auquel on l'entend souvent, mais aussi l'environnement de vie. Ensuite, on a l'entretien des espaces verts. On fonctionne de la même manière, on a des équipes également, là, itinérantes, qui vont passer d'un quartier à un autre. On travaille là pour les deux bailleurs sociaux, Médouane Habitat et Mayenne Habitat. Médouane Habitat pour tout ce qui est autour de Laval et Mayenne Habitat pour tout ce qui est sur le reste du département, notamment le sud du département. Et puis, on travaille aussi, bien sûr, pour les espaces verts, pour Laval Aglo, pour la ville de Laval, pour le département, pour la cité administrative, donc des équipements qui appartiennent à l'État, à la préfecture de région, ce qu'on appelle la préfecture de région. Donc voilà pour cette activité. On a bien sûr du matériel, hein, on a tout ce qu'il faut comme un paysagiste. Et là, on travaille justement en partenaire avec des paysagistes comme le Roi Paysage, avec qui on a des collaborations et qui nous prennent aussi nos salariés quand ils ont besoin de recruter et qui nous sous-traitent aussi du travail quand ils en ont de trop. Donc là, on a un très très bon partenariat. Sur l'activité de tri et de valorisation, là, on a construit des partenariats avec des entreprises. On a construit d'abord un partenariat au départ avec Veolia. C'est ce qui nous a permis notamment d'investir dans une presse à balles pour faire des balles de plastique, de carton et de papier. Et puis, ce partenariat, il a été repris par Séché dernièrement. Donc, Séché est notre plus gros partenaire sur cette activité aujourd'hui. On travaille en partenariat avec une société qui s'appelle Athéna Recyclage, qui est une émanation d'ATE à Château-Gontier, où là, on a des broyeurs à plastique et des compacteurs de polystyrène qui sont investis par cette entreprise. Et nous, on les utilise et on broie du plastique dur et on compacte du polystyrène qui sont en provenance de tout le département de la Mayenne. Donc là, on a construit ce partenariat depuis maintenant presque 8-10 mois et qui fonctionne très bien. On est en train de construire un autre partenariat avec De l'Assiette au Champ sur le biodéchet, où là, on est en train de construire un collectif autour de la filière biodéchet de la Mayenne. On y met autour aussi bien des composteurs que des méthaniseurs pour pouvoir faire en sorte d'allier les deux techniques et de faire en sorte de sortir au niveau de la Mayenne une vraie filière biodéchet. On a également des partenariats avec des structures comme les nôtres, avec Envimène, avec Emmaüs, avec Ménatelier, et on s'est mis ensemble tous les quatre pour mettre en place, grâce notamment à des financements du conseil départemental au départ et puis maintenant un accompagnement de la Laval Aglo, mettre en place une matériothèque. On récupère des matériaux dans les déchetteries et on les met en vente chez Emmaüs et chez Ménatelier. Donc là, on fait travailler chaque structure avec ses propres forces. Envimène et nous au niveau logistique, et puis Ménatelier et Emmaüs pour leur capacité à vendre les produits. Et on est en train de mettre en place là depuis janvier un autre partenariat avec Valorizon 53 qui est l'EBE. Alors ça aussi, ce sont des terminologies que tout le monde ne connaît pas. L'EBE, c'est une entreprise à but d'emploi qui est sur le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée et qui est installé à Saint-Nicolas. On s'est mis en partenariat avec eux et avec Bois Debout qui travaille du bois de palette aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les menuiseries que nous démantelons, le bois de ces fenêtres devienne du mobilier urbain et du mobilier tout court. Et donc, avec nos trois structures, on va réussir à faire en sorte que le bois de fenêtre devienne quelque chose de fini et que ça reste du bois et qu'il ne soit pas valorisé énergétiquement. Donc cette activité, elle s'inscrit chez nous dans l'activité de tri-valorisation, hein, puisque nous avons un atelier de démantèlement de fenêtres, nous avons un atelier de destruction d'archives confidentielles avec des broyeurs, etc. Nous avons un atelier de compactage avec une presse à balles qui fait des balles de 600 à 800 kilos pour être conforme à ce qu'attendent les recycleurs de papier, de carton et de plastique. Et nous nous développons sur ces activités de tri et de valorisation de déchets avec des éco-organismes. Nous avons une convention avec Ecologique pour tout ce qui est déchets électroniques, les D3E, les fameux D3E. Nous avons une convention avec l'éco-organisme Valdelia pour tout ce qui est mobilier de bureau. Nous avons également un partenariat, une convention avec Valobat pour tout ce qui est menuiserie du bâtiment. Et nous avons un partenariat avec Saint-Gobain pour le recyclage du verre. Donc vous voyez, c'est une activité, cette activité-là, qui est extrêmement importante et qui couvre beaucoup, beaucoup de domaines. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on passe d'un domaine à un autre, d'un partenaire à un autre, et on a tous un seul objectif, c'est de faire en sorte que nos déchets deviennent de la ressource et de la matière première pour éviter de continuer à gaspiller des ressources naturelles. Et puis, la quatrième activité, la collecte. La collecte, ce sont des petits camions de 3,5 tonnes avec des chauffeurs autonomes qui vont faire le tour de nos 250 à 300 clients. Je les appelle des clients, mais c'est des clients partenaires qui nous mettent à disposition leur papier, leur carton, leur plastique, leur gobelet, tous les déchets qu'ils peuvent avoir dans leurs entreprises. Quand c'est du petit flux, parce que quand c'est du grand flux, on laisse ça au grand du déchet. Hein. Il y a Séché, il y a Paprec, il y a Veolia, il y a Passno. Mais nous, on travaille surtout sur du petit flux. Et là, on collecte ces matières. Les entreprises jouent le jeu, parce que plutôt que de mettre ça dans les bacs jaunes, le papier, ben, ils le mettent chez nous, parce qu'on est sûr que ça redevienne du papier au final. Dans la collecte, ben, on collecte du mobilier de bureau, comme je vous le disais tout à l'heure. On collecte, on fait du vidage d'appartements, on fait du vidage de caves pour les bailleurs sociaux. Toute activité qui nécessite notamment un peu de manutention et un peu de transport. Et donc ça se fait en entreprise d'insertion.
J'ai entendu citer des structures d'insertion. Oui. Localement, mais se présente. Moi, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut, l'état d'esprit aujourd'hui de travailler entre ces structures-là, elle est plus de complémentarité ou il y a une certaine des fois tension concurrence, disons-le, entre ces structures-là, puisque vous êtes sur le marché, donc tout le monde développe a des activités, a des personnes à intégrer sur le marché. Comment ça se passe? C'est toujours
Alors, je sais à quoi tu fais référence. Effectivement, par le passé, il y a pu y avoir certaines tensions lorsque certaines structures se retrouvent sur le même terrain de jeu ou la même activité. Aujourd'hui, on fonctionne vraiment de manière extrêmement coopérative. On fonctionne la main dans la main avec une confiance, j'allais dire presque totale. On se rencontre, on fait en sorte d'entendre les difficultés de chacun et puis de s'entraider. Et ça, c'est important parce que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, il y a quand même solidaire. Et on se doit d'être solidaire. Logiquement, il y a un dispositif qui s'appelle le CDIAE, CD pour conseil départemental et IAE pour insertion par l'activité économique, qui consiste logiquement à réguler ce monde-là, hein, dans le sens où quand il y a une nouvelle création, ça doit passer par le CDIAE, quand il y a une augmentation d'activité, ça doit passer par le CDIAE, et ce dispositif se doit de réguler et d'éviter cette concurrence qui pourrait y avoir ou cette tension qu'il pourrait y avoir. Donc, quand le CDIE joue bien son rôle, logiquement, on ne devrait pas se retrouver dans des situations comme il y a eu un peu dans le passé.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la place pour que d'autres structures d'insertion se créent? Parce qu'on peut rencontrer des personnes même qui sont porteuses de projets, qui pensent à des activités où l'insertion peut être un dispositif à mobiliser. Il y a souvent une méconnaissance en fait, de cet environnement-là et la possibilité ou pas de faire appel?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IAE est réglementée, et notamment en équivalent temps plein, c'est-à-dire le nombre de postes ouverts pour servir en insertion. L'État définit un nombre de postes, un nombre d'équivalent temps plein par structure. Aujourd'hui, l'État a figé son nombre d'équivalent temps plein et ne l'augmente plus. Ce qui veut dire que logiquement, s'il n'y a pas de fermeture de structure, il ne peut pas y avoir d'ouverture de nouvelles structures. Donc aujourd'hui, on doit rester à isopérimètre en termes de nombre d'ETP. Nous, par exemple, Alternatrice 53, on est conventionné pour 55,2 ETP sur la partie chantier d'insertion et pour 8 ETP sur la partie entreprise d'insertion. Eh bien, si demain, on n'arrive pas à occuper en termes d'activité ce nombre d'ETP, on peut effectivement en libérer et là, il pourrait y avoir création de nouvelles activités. Mais par contre, s'il n'y a pas de libération de ces ETP par des structures déjà existantes, il ne peut plus y avoir de nouvelles activités de créer. Au niveau insertion par activité économique, je parle. Hein. Même si sur la partie entreprise d'insertion, l'État est un petit peu plus généreux et il est disposé à donner un petit peu plus de TP s'il y avait vraiment une demande. Mais sur la partie chantier d'insertion, c'est figé.
Tu parlais tout à l'heure des difficultés. Quelles sont un peu ces difficultés-là? C'est au niveau des activités à pouvoir développer pour cocher l'objectif ou les partenaires qui ne sont pas toujours au rendez-vous
Alors, effectivement, des difficultés, il y en a. Premièrement, il y a un certain nombre de choses qui sont régies chez nous par des appels d'offres. Des appels d'offres au niveau des collectivités locales. Et c'est là où parfois il peut y avoir un jeu un peu malsain de certains à mettre en concurrence des structures de l'économie sociale et solidaire. Alors qu'on n'a pas vocation à être mis en concurrence. Mais malheureusement, ça arrive. Parce que, comme tu le dis, par méconnaissance, parfois certains cherchent plutôt du prix et donc ont tendance à vouloir mettre en concurrence ces structures de l'insertion. La difficulté, elle réside aussi dans le fait que un appel d'offres, quand il est fait pour 3 ans, au bout de 3 ans, on a une épée Damoclès au-dessus de sa tête et on ne sait pas si ça va se reconduire ou pas. Et donc, en termes de gestion de budget, c'est extrêmement compliqué. Les subventions que l'on a tous les ans, il faut refaire une demande de subvention. On ne sait pas si ça va être pérenne ou pas. Et donc, toutes ces incertitudes font que la gestion d'une structure comme la nôtre est quand même assez complexe, quoi, assez parfois stressante, de ne pas savoir si l'année suivante on va avoir le budget qui va être là ou pas.
D'où les nouveaux projets, là, parce que tu as cité, dans le cadre de la présentation des activités principales, tu as cité quand même des nouveaux projets.
Oui.
Qui sont développés quand même depuis ton arrivée, puisque je connais un petit peu l'histoire d'Alternative depuis quelques années. L'idée, c'est de pouvoir justement proposer des activités et de continuer à ce que le dispositif interne Alternative puisse...
Tout à fait. L'idée, c'est de vraiment élargir les différentes activités pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de fragilité trop importante sur une activité. Lorsqu'il y en a une qui ne marche pas, c'est pas trop grave si elle est minoritaire. Alors qu'auparavant, on avait quand même des activités qui étaient très, très prépondérantes et qui pouvaient porter préjudice si, effectivement, elles défaillaient. Aujourd'hui, le fait de développer un certain nombre d'activités différentes dans des mondes différents, avec des partenaires différents, eh bien, ça permet de limiter le risque et de diffuser le risque.
Pause musicale et puis on va finir cet échange-là qui est passionnant. Il y a plein de choses à questionner, mais bon, prochaine émission peut-être. Mais déjà, finissons celle-ci. À tout de suite.
Merci.
قلبي اختارك قلبي اختارك وبسط الدواء اليوم راك معايا وغدوة يا درا دي حوال الدنيا حوال الدنيا حلوة مرة
de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Dernière partie de cet échange, Saïd, on ne va pas développer plus les activités, je pense que les auditeurs ils ont compris les activités que Alternative développe, la partie sociale, les personnes que vous accompagnez. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?
Eh bien, je pense que ce que je préfère, c'est ce qui m'a attiré dans ce travail, c'est la relation humaine. c'est vraiment le point fort de d'Alternatrice 53, c'est la relation humaine que l'on a avec nos salariés en insertion, où là on fait preuve d'empathie et on fait preuve d'écoute et on s'enrichit énormément des différences que nous apportent ces personnes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la centaine de personnes en insertion, il y en a 50%, la moitié qui sont au RSA. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes accompagnés aussi par le conseil départemental à ce sujet. Et puis la relation humaine avec nos salariés permanents qui travaillent chez nous, pas pour des questions de salaire, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on est une association, donc on n'offre pas les salaires qu'offrent les entreprises locales. Mais par contre, ils sont là parce qu'ils croient en le projet de l'association et ils croient en ce qu'ils font. Et ils viennent aussi rechercher là la relation humaine dont j'ai parlé à l'instant. Et donc, les échanges avec eux tous les jours sont extrêmement enrichissants et ça m'attire beaucoup et c'est ça qui me plaît. Et puis ensuite, vous avez la relation humaine avec tous les partenaires où il faut aller chercher cette petite part d'humanisme qui est en chacun et donc d'aller la solliciter, d'aller la susciter et pour leur faire partager notre projet et les faire impliquer dans ce que l'on mène. Et quand on arrive à faire ça, c'est à chaque fois une joie énorme.
J'imagine que ce sont des valeurs partagées aussi par l'équipe d'élus et des salariés. Comment tu vois l'entreprise dans 5 ans, par exemple ?
Alors, notre association dans 5 ans, je la vois bien sûr toujours sur ce volet social et environnemental, comme je l'ai dit, parce que de toute façon, ça reste l'ADN de notre activité. Mais là, on est en train de prendre un petit tournant super intéressant, là aussi, c'est la labellisation Régie de quartier. Donc, on a présenté notre dossier à la Fédération nationale des régies de quartier. A priori, la fédération a donné son aval. Il reste à faire passer la décision au niveau de leur conseil d'administration. Mais je pense que fin février, début mars, on aura ce label Régie de quartier qui va redonner une impulsion à notre association. Ce que ça va apporter en plus à ce que l'on fait déjà, c'est une ouverture plus importante au niveau de notre gouvernance. C'est-à-dire que notre conseil d'administration va s'étoffer. Il va s'étoffer avec des élus locaux, avec des représentants des bailleurs sociaux, avec des représentants des habitants de quartier et avec des représentants des associations ou entreprises qui sont sur le territoire. Et donc, cette gouvernance qui va être élargie va représenter beaucoup plus le tissu local et donc cet outil qui est notre association va pouvoir être approprié par cet ensemble dont je viens de parler. Et puis, la deuxième chose que ça va nous apporter, c'est qu'on va rajouter une cinquième corde à notre arc, qui est celle du lien social. Vous l'avez vu tout à l'heure, le lien social que l'on fait aujourd'hui, on ne le fait qu'avec nos salariés. Eh bien, demain, nous allons créer du lien social avec les habitants des quartiers. Et le quartier dans lequel on va s'implanter, en premier lieu, ça va être les Fourches. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer et d'accompagner et d'impliquer les habitants du quartier avec des activités de lien social. Alors on va en inventer, on va en mettre en place, on va en développer de celles qui existent déjà et ça va nous apporter encore une fois plus d'ouverture sur le territoire local. Donc cette évolution, elle est très importante parce qu'elle nous ouvre aussi un autre champ de réseau, le réseau des fédérations des régies de quartier, Fédération nationale des régies de quartier. Hein, je parlais tout à l'heure de chantier école, mais là, ça va être encore un autre réseau, une autre ouverture. Et donc, pour nous, c'est le travail qu'on va mener là sur les 3 années à venir, ça va être de développer le lien social.
Il n'y a pas de régie de quartier sur Laval, même pas en Mayenne, si ?
Non, il n'y en a pas en Mayenne. La première, ça va être celle de la ville de Laval. Alors là-dessus, il faut, faut dire que M. le maire, président de Laval Agglo, Florian Berco, porte ce projet-là et il l'avait inscrit dans ses promesses électorales. Patrice Morin, qui est son adjoint, il est à nos côtés pour mettre en place cette régie de quartier. Et bien sûr, il y a d'autres élus comme Gwenaël Poisson et d'autres qui sont avec nous sur ce projet.
On voit que tout le monde est autour de la table pour porter le projet. Donc, c'est le feu vert, il est donné par tous les partenaires. On arrive à la fin. Je te propose un exercice qu'on propose, parce que cette émission-là, elle est aussi animée par les collègues, mes collègues de la PES. Je vais citer quelques termes, quelques concepts, et j'aimerais bien que tu dises quelle est ta définition perso, au-delà du côté pro, même si les termes sont un peu inspirés de ce que tu fais aujourd'hui. En tant que responsable des structures d'insertion. Alors, pour toi, c'est quoi un déchet ?
Ah, un déchet, c'est une ressource. Aujourd'hui, effectivement, jusqu'à aujourd'hui plutôt, on a toujours considéré que le déchet, il fallait le brûler ou l'enfouir. Alors qu'en réalité, ça n'est qu'un passage, ça n'est qu'une transformation d'un produit. Et ça reste toujours une ressource pour que ça redevienne une matière première. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on règle nos prismes pour qu'on le regarde autrement. Parce que je le dis souvent en rigolant, mais un de ces jours, je pense qu'on aura besoin d'aller déterrer tous les déchets qu'on a enfouis à changer.
On continue. C'est quoi pour toi l'insertion ?
L'insertion, ce mot d'insertion, moi qui viens du monde industriel, qui pour moi évoque autre chose que ce qu'on lui a donné comme définition jusque-là, je milite pour qu'on puisse le changer et qu'on puisse parler plutôt de réorientation professionnelle ou de transition professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'insertion quand on parle de personnes qui vont soit changer de métier, soit changer de statut, hein, passer de quelqu'un qui n'a pas un emploi à quelqu'un qui va travailler. C'est juste un changement de statut, mais ça n'est pas de l'insertion. C'est pour moi un mot qui a été utilisé dans les années 80 et qu'on a gardé, et qui parfois peut porter une connotation un peu péjorative. Et je préfère parler de réorientation professionnelle ou de transition professionnelle.
Être directeur d'une association, c'est quoi ?
Alors, dans une association comme la nôtre, hein, qui est aussi importante, on est dans la peau d'un chef d'entreprise, clairement, mais avec un poids en moins, celui de l'absence d'actionnaires qui ne voient les choses que par un seul angle, qui est celui la plupart du temps de l'économique. Et c'est là justement la force d'une structure comme la nôtre, c'est d'avoir les mains libres pour pouvoir vraiment mener des projets sociaux, environnementaux, sans forcément avoir une pression de rendement économique.
Et on va finir avec le dernier terme. Économie sociale et solidaire, ESS, c'est quoi pour toi ?
Alors, non, mais c'est important d'en parler parce que on a quand même notre association LAPES en Mayenne, hein, qui a plus de 20 ans d'existence quand même et qui milite pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que on a souvent eu tendance, on le voit dans les médias parfois, à opposer l'économie sociale et solidaire à l'économie, on va dire, normale. Sauf que pour moi, c'est complémentaire. Et l'économie sociale et solidaire a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apporter à l'économie standard que l'on connaît. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte beaucoup plus d'humanisme, elle apporte beaucoup plus de conscience environnementale, de conscience sociale. Et on peut servir d'appui pour les entreprises et leur servir de tremplin pour notamment atteindre leurs objectifs RSE.
Est-ce que tu auras une recommandation à faire, là, puisqu'on a fini notre échange un peu plus sérieux, mais bon, c'est toujours sérieux. Une recommandation, je ne sais pas, d'un film à voir ou une action organisée par une association qui porterait un coup de cœur. Mais tu n'es pas obligé, c'est juste... voilà.
Ta question est compliquée parce que je ne veux pas faire de jaloux, donc il faut vraiment être objectif. Mais s'il y avait une recommandation, moi je l'orienterais plutôt vers les entreprises mayonnaises qui malgré le nombre quand même de partenaires que l'on a, beaucoup restent encore un peu en dehors de ce champ de l'accompagnement par l'activité économique. Et donc, la recommandation, c'est ouvrez vos portes, faites la place à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds chez vous pour que, justement, ils puissent vous découvrir et que vous puissiez trouver la bonne compétence et les bonnes personnes à embaucher demain.
Des informations en lien avec l'activité de l'alternatrie à partager
Oui, on réunit l'ensemble des régies de quartier de la région Pays de la Loire jeudi et vendredi, là, chez nous. Donc, on les accueille chez nous pour faire connaissance et puis qu'ils prennent conscience aussi de ce que nous sommes. Parce que nous allons intégrer cette fédération. Donc voilà pour le premier rendez-vous. Et puis sinon, bientôt, on aura notre AG. Ce sera courant avril. Donc ça, c'est aussi un moment important de notre agenda. Surtout que là, on va pouvoir annoncer notre labellisation et on va pouvoir constituer le conseil d'administration dont j'ai parlé tout à l'heure, élargi. Donc voilà, et puis on a dans notre agenda beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail encore parce qu'on a plein de projets. On veut faire une ferme solaire, donc avec des panneaux solaires sur notre bâtiment. On veut également refaire tout le terrassement de notre terrain à Saint-Berthevin. On a quand même 22 000 m² de terrain. Donc... voilà, je fais un appel aux donateurs, bien sûr, aux entreprises qui peuvent faire du mécénat de compétences, du mécénat de services ou du mécénat pécunier pour le plus simple. Mais du mécénat de services, voilà, je fais cet appel parce que certaines entreprises pourraient avoir intérêt à faire ce genre de dons. Ça permet notamment d'avoir un crédit d'impôt. Ce qui n'est pas négligeable, jusqu'à 60%. Et puis, deuxièmement, ça permet de cocher une case sur la politique RSE qu'ils souhaitent mettre en avant. Et puis surtout, ça nous permet à nous de continuer à exister et de continuer à apporter ce service à la société.
Merci Saïd pour cet échange très riche, plein d'actu, plein d'informations que tu nous as partagées en lien avec ce que vous développez sur le territoire. Je vais juste partager les actus de la PES. Pour le mois de février, on va proposer un atelier autour des achats socialement et écologiquement responsables en partenariat avec Laval Économie le 13 février, au sein d'Alternatrice justement. Une permanence au collectif 2-4 après un paille le 22 février l'après-midi. Donc Jeanne Rosier, ma collègue, elle sera présente et vous accueillera avec plaisir pour partager des infos ou juste échanger. Une permanence avocat le 23 février à la maison des associations de 9h à midi. Ce sont des permanences gratuites. Il y aura un avocat qui est à disposition pour répondre à vos questions. Et puis enfin, une session de sensibilisation à l'entrepreneuriat autrement, le 28 février, qui se passe en visio sur le temps de midi, 13h. Merci à vous pour votre écoute et puis à la prochaine. Bonne soirée.
Merci.